Alors, si vous avez aucun mal à imaginer quelque chose de plus intéressant à faire que lire et étudier la Bible, cette prédication est pour vous. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, je lutte perpétuellement contre une espèce d'indifférence qui s'installe subrepticement en moi vis-à-vis de la Bible. Alors, c'est peut-être parce que j'ai fait de la transmission des enseignements de la Bible mon métier, que ce livre me laisse froid parfois, comme on le serait, comme n'importe qui le serait peut-être devant son outil de travail ordinaire. Le résultat, c'est que la lecture personnelle de la Bible, pour ma propre édification, ne me vient pas spontanément par opposition à la lecture de la Bible pour la préparation d'un message ou d'une étude biblique, vous voyez. Mais quelles sont les causes et les symptômes de votre indifférence plus ou moins grande vis-à-vis des enseignements de la Bible? Parce que je suis sûr que vous vous reconnaissez un petit peu dans ma situation. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir déjà tout entendu 10 000 fois. Peut-être plutôt que vous avez du mal à voir la pertinence de ces enseignements pour votre vie quotidienne. Peut-être que vous êtes très préoccupé par toutes sortes de choses qui vous paraissent beaucoup plus importantes et pressantes que les enseignements un peu étranges de ce vieux livre poussiéreux que vous a légué votre grand-mère. Peut-être que vous vous dites consciemment ou inconsciemment que la Bible s'est dépassée et que les médias modernes, contemporains, ont des choses bien plus utiles et fiables à vous proposer pour la vie. Peut-être aussi, c'est peut-être votre cas, peut-être que vous commencez tout juste, en fait, aujourd'hui, à vous intéresser au message de la Bible et puisque vous commencez tout juste à vous y intéresser, vous ne voyez pas encore pourquoi ces enseignements devraient vous passionner. Quoi qu'il en soit, nous vivons de nos jours, en 2014, à Lyon, en France, dans un contexte social et culturel qui ne nous encourage pas non plus à valoriser la Bible et ses enseignements, et encore moins à chercher à les diffuser, n'est-ce pas? Ils existent, ces textes, la plupart des gens le savent, la plupart des gens le reconnaissent, ils savent que la Bible, ça existe. Ils en connaissent même en partie le contenu pour certains. Mais la Bible suscite si peu d'enthousiasme, apparemment, autour de nous. Ça donne pas très envie. Comparez ça avec Harry Potter, ou le livre de Valérie Trierweiler, ou le livre d'Éric Zemmour. On additionne tous ces facteurs et on se retrouve avec l'impression qu'étudier la Bible, c'est quelque chose d'original, voire même de marginal. Qui voudrait étudier la Bible aujourd'hui? Les enseignements de la Bible ont peut-être une valeur culturelle. Mais à cause de l'environnement dans lequel on vit, à cause du contexte dans lequel on vit, ces enseignements, on les perçoit comme étant a priori inintéressants. Dans l'Église, la Bible est comme un reliquat d'un autre temps. Et les chrétiens évangéliques que nous sommes continuent, bien sûr, de baser leur vie et leur foi sur la Bible, mais dans une sorte de conservatisme timide et confidentiel. Voilà, je suis chrétien évangélique. Et ce qui caractérise ma secte, si tu veux vraiment le savoir, c'est qu'on considère la Bible comme étant la parole de Dieu. Je sais, c'est ridicule, mais t'inquiète pas, je ne compte pas faire du prosélytisme à ce sujet. C'est un peu comme ça qu'on pense. Et donc, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi nous pouvons aujourd'hui être indifférents, distants, timides ou complexés par rapport à la Bible et par rapport à ce qu'enseigne la Bible. Vous allez voir que le texte qu'on est sur le point de lire et sur lequel on est sur le point de se pencher. En fait, ce texte veut complètement corriger cette attitude que nous tendons à avoir, en tout cas moi, en nous persuadant d'une idée toute simple. C'est qu'en fait, il n'y a rien de plus important à connaître et à diffuser que le message de la Bible. Ça, c'est pas très compliqué, hein? Il n'y a rien de plus important à connaître et à diffuser que le message de la Bible. Je crois que c'est la leçon du texte qu'on va lire. C'est le chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. On va lire les versets 1 à 23. Vous allez sûrement reconnaître une bonne partie de cette histoire. Il va être question d'une parabole connue, la parabole du semeur. Alors lisons le texte. Je vous rappelle qu'on lit la parole de Dieu. Hein. Ces textes sont inspirés par Dieu de sorte qu'ils sont infaillibles. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. » Mais quand le soleil se leva, Ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez bien, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. J'arrête ici la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, on va prier. Merci infiniment, notre Dieu, pour ta parole. Merci pour ces textes. Merci parce que tu comptes nous instruire. Tu comptes te faire connaître au moyen de ces textes. Fais-le encore cet après-midi, s'il te plaît. Bénis la prédication de ta parole et rends nos oreilles et nos cœurs attentifs à ta voix. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Il n'y a rien de plus important à connaître et à diffuser que le message de la Bible, d'accord ? C'est pas compliqué, j'espère que vous allez au moins retenir cela. Mais le texte commence ici, versets 1 à 9, par nous faire comprendre quelque chose de très simple également, c'est que le message de la Bible est par nature destiné à être diffusé très largement. Qu'est-ce qu'on découvre dans cette histoire ? On découvre Jésus qui va raconter donc une parabole à une grande foule qui se tient sur le bord de la mer. Et une parabole, vous l'avez compris, c'est tout simplement une petite histoire dont le sens est allégorique. C'est-à-dire que la petite histoire sert d'image pour faire comprendre une doctrine ou un concept ou une idée. Mais le truc avec les paraboles, c'est que le sens de l'image n'est pas forcément toujours évident. Et donc, cette parabole, en l'occurrence, cette histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui sème son grain, mais en raison de diverses circonstances, il n'y a qu'une partie de son grain qui va produire du fruit à la fin. Et dans la première partie de cette histoire, versets 1 à 9, le sens exact de la parabole reste mystérieux pour l'instant. Mais le texte rend assez évident, au moins à ce stade, le fait que le semeur, dans cette histoire, représente Jésus, et que le grain représente la prédication de Jésus adressée à la foule. Ça paraît naturel et évident d'interpréter au moins ces éléments comme cela. Mais il est important de remarquer que le texte insiste aussi, au début de cette histoire, sur la grandeur de la foule, la taille impressionnante de la foule qui s'assemble pour écouter Jésus. Et on sait à ce stade du récit de l'évangile selon Matthieu, on sait à ce stade, hein, si on a lu les 12 chapitres précédents, on sait que Jésus est le Messie tant attendu par le peuple d'Israël, on sait qu'il est venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre, c'est-à-dire qu'il est venu pour réconcilier le monde de Dieu avec Dieu, c'est-à-dire le monde, la création, avec son créateur. On sait qu'il est venu présenter le pardon de Dieu aux hommes et qu'il va faire quelque chose, on ne sait pas exactement quoi encore, mais on sait qu'il va faire quelque chose pour vaincre définitivement le mal et la mort au profit de tous ceux qui vont lui faire confiance, de tous ceux qui veulent le suivre, d'accord ? Rien de plus normal, donc, étant donné qui Jésus est et ce qu'il est venu faire, rien de plus normal que Jésus s'adresse aux foules. On est d'accord. Mais les chrétiens du 1er siècle, quelque temps plus tard, à l'époque où Matthieu rédige son récit, Et ces chrétiens qui découvrent ce récit, qui lisent ce récit qu'on a, nous, sous nos yeux, ces chrétiens-là savent aussi que beaucoup de Juifs, beaucoup d'Israélites du 1er siècle, qui ont connu Jésus, ont en fait finalement rejeté ce Messie, à commencer par les responsables juifs eux-mêmes. Et les chrétiens du 1er siècle sont alors dans un contexte difficile, ils sont minoritaires, ils subissent la persécution, et ils constatent que la prédication chrétienne ne rencontre pas partout l'approbation et l'enthousiasme, loin de là. Et pour eux, donc, qui découvrent ce texte, le fait que de grandes foules s'assemblent sur le bord de la mer pour écouter Jésus, pour eux, c'est frappant, ça. Que de grandes foules, quelque temps avant leur situation à eux, se soient réunies pour écouter le Messie, c'est frappant. Les chrétiens du 1er siècle, étant donné leur contexte, étaient peut-être tentés de se replier sur eux-mêmes. Vous voyez, et à cause des difficultés, et de vivre leur foi un petit peu en catimini, en cachette, en essayant de ne déranger personne, en se disant, bon, c'est bon pour nous, mais on va pas faire trop de bruit, parce que c'est trop délicat. Mais l'auteur ici, l'évangéliste Matthieu, en leur rapportant cette histoire, en insistant sur la taille de la foule qui se réunit pour écouter Jésus, les ramène tout simplement à la réalité, comme s'il leur disait, mes chers co-religionnaires, mes chers chrétiens, mes chers frères, souvenez-vous de Jésus, c'était il n'y a pas si longtemps, il prêchait aux foules. Vous voyez bien que la prédication chrétienne est naturellement destinée à des gens en très grand nombre, quelles que soient les apparences. Alors ne soyez pas timides, ne vous repliez pas sur vous-même. N'oubliez pas ce point, vous voyez. Et donc à notre tour, aujourd'hui, on devrait reconnaître aussi que le message de la Bible est par nature destiné à être diffusé très largement. Malheureusement, nous, aujourd'hui, en 2014, en France, à Lyon, on a un problème qui est quand même très similaire à celui des chrétiens du 1er siècle. C'est le problème que je décrivais en introduction, en fait. Le message de la Bible rencontre plutôt les préjugés que l'approbation, plutôt l'opposition que l'enthousiasme, n'est-ce pas? Et même nous sommes parfois un peu blasés par la Bible, il faut le dire. Et donc nous sommes tentés de moins mettre en avant ce message. Et même on est tenté de s'en distancer quelque peu, vous voyez. Et beaucoup de gens renoncent même à s'y intéresser, point final. Y compris des gens qui sont issus de familles chrétiennes ou issus de l'Église. Pourtant, on peut imaginer sans difficulté d'autres situations, des situations hypothétiques, où un message nécessiterait par nature d'être diffusé le plus largement possible. Imaginez par exemple qu'on découvre qu'il y a eu un problème dans la fabrication du lait en poudre pour les bébés. D'accord ? Voilà, c'est ce qui m'est venu spontanément comme illustration. Alors que les boîtes de lait sont déjà en rayon dans les magasins, le fabricant se rend compte qu'il y a un poison mortel qui s'est mélangé aux ingrédients par accident, au moment de la fabrication. Je pense qu'il y a là une information que le fabricant chercherait à diffuser, non ? Le plus largement possible, au plus grand nombre possible de gens, même si tout le monde n'a pas forcément un bébé qui consomme ce lait-là. Tout le monde ne se sent pas forcément concerné. Et même si c'est un peu humiliant pour le fabricant de devoir le dire, mais il va quand même chercher à diffuser cette information au plus grand nombre possible de personnes. Et je suis sûr qu'à notre tour, dans une situation pareille, si on en entendait parler, à notre tour, on la diffuserait cette info, on la posterait sur notre mur Facebook pour que tout le monde puisse voir, pour que tout le monde puisse être au courant, pour que tout le monde puisse lire l'article. On ferait suivre les chaînes d'emails qu'on recevrait à ce sujet, on chercherait à en savoir davantage nous-mêmes et on en parlerait naturellement autour de nous, n'est-ce pas, avec nos amis, avec nos collègues au travail, et plutôt deux fois qu'une, hein, dans l'éventualité de pouvoir sauver la vie d'au moins un bébé. D'au moins un bébé, on ne sait jamais. Alors on en parlerait encore et encore, non, c'est pas vrai? Et pourquoi on ne fait pas pareil avec le message de la Bible? Pourquoi ce message nous semble-t-il moins intéressant, moins pressant, moins pertinent? C'est sûr que la Bible ne parle pas de poison dans le lait en poudre des bébés. La Bible nous parle juste du problème existentiel fondamental de l'homme, qui s'est détourné de Dieu. Et dont la vie est par conséquent soumise à la souffrance, au mal et à la mort. Non, la Bible ne parle que de ça. Finalement, c'est pas grand-chose. La Bible nous parle juste de ce que Dieu a fait pour délivrer les hommes, des conséquences de leur faute, en envoyant Jésus, son propre Fils éternel, Dieu lui-même, fait homme, Dieu incarné, qui est venu mourir sur la croix, n'est-ce pas, à la place des croyants, pour prendre sur lui, le poids de leur faute, de leur péché, pour leur en délivrer. Et il est venu non seulement mourir, mais aussi ressusciter le troisième jour en vainqueur sur le mal et sur la mort. Oh, c'est juste des détails, des broutilles. La Bible nous parle juste du pardon définitif de nos péchés, rendu possible par ce sacrifice de Jésus. La Bible nous parle juste de notre réconciliation éternelle avec Dieu, notre Créateur. La Bible nous parle juste de la nécessité de placer notre confiance en lui, en Jésus, et d'avoir une foi vivante et personnelle en lui pour que notre vie retrouve pleinement son sens, sa valeur et son but. La Bible nous parle juste de ces choses. Voilà pourquoi, que vous soyez croyant ou non croyant, que vous soyez croyant ou non croyant, que vous soyez juste en train de découvrir la foi chrétienne parce que vous vous y intéressez un peu par curiosité, ou que vous soyez un chrétien aguerri, chevronné, vous devez au moins vous intéresser avec enthousiasme à la Bible. C'est la moindre des choses, non? Et vous devriez même chercher avec ce même enthousiasme à en diffuser le message au plus grand nombre. Donc il n'y a rien de plus important à connaître et à diffuser que le message de la Bible, parce que premièrement, d'après ce texte, ce message est par nature destiné à être diffusé très largement. Mais la deuxième chose que ce texte veut nous dire, c'est que le fait de recevoir et de comprendre le message de la Bible, c'est une chance extraordinaire qui n'est pas donnée à tout le monde. Dans le texte, les disciples, à partir du verset 10, ils s'étonnent du fait que Jésus ne parle pas plus clairement à la foule. Et donc, ils vont demander à Jésus pourquoi il emploie cette figure de style emblématique qu'est la parabole, plutôt qu'un langage explicite. Et là, on a une réponse de Jésus qui n'est franchement pas très évidente à comprendre. Jésus répond en gros, il répond qu'il fait exprès de se rendre difficile à comprendre auprès des foules. Et il le fait dans le but de mettre en évidence leur aveuglement. Il dit en gros, je leur parle en parabole parce qu'il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Je leur parle en parabole parce qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Je leur parle en parabole parce qu'ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, etc., etc. En fait, Jésus est en train de dire qu'il ne parle pas explicitement à ces gens parce que ces gens ne veulent pas, en fait, au fond, entendre ce que Jésus a à dire. Jésus sait que ces gens ont un cœur incrédule et endurci. Et le fait de les enseigner par des paraboles qu'ils ne comprennent pas, ça sert donc à révéler leur aveuglement spirituel. C'est comme un jugement, finalement, contre eux, contre leur incrédulité. C'est un peu comme si je vous invitais chez moi pour le dîner et que je sorte du four un magnifique haggis. Donc le haggis, c'est le plat traditionnel de l'Écosse. Je sors du four un haggis qui m'a coûté très cher et qui m'a pris beaucoup de temps à préparer. Imaginez que je le pose comme ça au milieu de la table, sur le dessous de plat, et au lieu de vous servir du haggis, je vous sers des biscottes et du pâté. Pourquoi ? Pourquoi je ferais ça ? Peut-être parce que je sais depuis longtemps que vous n'aimez pas le haggis. D'ailleurs, vous détestez le haggis, je le sais depuis longtemps. Ou plutôt, je sais qu'il ne vous a pas été donné d'apprécier le goût du haggis. D'accord ? Et c'est pourquoi, pour révéler votre mauvais goût, je vous sers du pâté à la place. C'est un jugement. Mais dans ces versets, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que l'accent n'est pas tant sur l'aveuglement des foules que sur le privilège des disciples qui, eux, voient, eux, comprennent, eux, entendent. Or, qu'est-ce qui est sous-entendu dans ce que dit Jésus ? Ce qui est sous-entendu, c'est que c'est Dieu qui donne aux uns de voir et de comprendre, tandis qu'il endurcit le cœur des autres. Là, on touche à une des doctrines les plus délicates, j'ai envie de dire, de la Bible. Par la façon dont Jésus parle aux uns et aux autres, tantôt en parlant explicitement, comme à ses disciples, tantôt en se rendant difficile à comprendre par des paraboles, comme aux foules ici, donc par la façon dont Jésus parle aux uns et aux autres, il s'aligne lui-même sur l'intention de Dieu qui consiste à faire surabonder sa grâce en faveur de ceux qu'il choisit et qui consiste parallèlement à priver de cette même grâce ceux qu'il réprouve. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, surabondance de la grâce de Dieu en faveur de ceux qu'il choisit souverainement. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il prive de cette même grâce ceux que Dieu réprouve. Alors l'application immédiate de ce texte concerne évidemment tous les Israélites qui étaient particulièrement concernés par la venue et l'œuvre du Messie qui leur avait été annoncé depuis des générations et des générations et qui l'ont rejeté quand même quand il est venu, à commencer par les responsables religieux eux-mêmes. Dans sa souveraineté, dans le cadre de son plan souverain, Dieu a voulu qu'ils endurcissent leur cœur. Il l'avait décrété ainsi. Et en effet, ils ont endurci leur cœur, mais volontairement. Et il n'y a pas de contradiction entre le décret éternel de Dieu qui est la cause première et l'endurcissement volontaire du cœur de ces Israélites qui est la cause seconde. Ils en portent quand même la responsabilité. Et Jésus, qui assume les prérogatives de Dieu dans ce texte, puisque de toute façon il est lui-même Dieu, il contribue à son tour à cet aveuglement en parlant à ses foules en parabole. C'est son jugement en quelque sorte. Mais comme on va le voir dans un instant, Jésus a aussi ouvert les yeux de certains, en tout cas ici de ses disciples. Et Jésus a aussi contribué à illuminer leur intelligence, si j'ose dire, en leur parlant explicitement et notamment en leur expliquant le sens de ces paraboles et de celles-ci en particulier. On va y venir dans un petit instant. Mais c'est sur le privilège des disciples que le texte met l'accent. Hein, versets 11 et 12. Jésus leur répondit, « Il vous a été donné, entre parenthèses, à vous, quelle chance, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Et puis ensuite au verset 16, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Même les prophètes et les justes d'autrefois ont désiré voir et entendre ce que vous voyez, entendez, ils n'ont pas pu. Quel privilège que vous avez, vous les disciples. Vous pouvez voir, entendre et comprendre. » Et c'est là que se trouve la leçon que Jésus veut que nous retenions hein, ici. Heureux sommes-nous aussi si nous voyons, si nous entendons, si nous comprenons. Parce que, comme je le disais, le fait de recevoir et de comprendre le message de la Bible, c'est une chance extraordinaire qui n'est pas donnée à tout le monde dans la souveraineté de Dieu. Si vous, vous avez reçu et compris le message de la Bible, c'est grâce à Dieu. C'est pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres. On a déjà eu l'occasion d'en parler de ça d'ailleurs. Dans l'évangile selon Matthieu. Si vous avez reçu et compris le message de la Bible, c'est grâce à Dieu qui, dans sa providence et selon son plan souverain, a réuni toutes les conditions pour que cela soit possible. Mais si c'est Dieu qui permet à ceux qu'il veut de comprendre ce message, est-ce que ça veut dire, d'une part, qu'on doit essayer maintenant, nous, de discerner chez les uns et chez les autres qui c'est qui est réceptif au message de la Bible ? Et du coup, de ne parler de la Bible qu'à ceux qui sont apparemment réceptifs, voire même, serait-ce notre rôle de faire comme Jésus, c'est-à-dire de faire exprès de se rendre difficilement compréhensible aux gens qui sont manifestement aveugles. Et d'autre part, est-ce que ça veut dire que si on n'est soi-même pas très intéressé par la Bible, c'est votre cas cet après-midi, ça se trouve, vous dites, j'en ai rien à faire de la Bible, peut-être que vous êtes en train de vous dire, bah, ça veut dire que Dieu m'a aveuglé, et donc il ne veut pas que je le connaisse, bah, je vais plus jamais revenir à cette église, ça ne sert à rien. Non, bien sûr que non. Ce n'est pas ce genre de conclusion qu'il faut tirer de ce que le texte nous dit ici. Hein. Nous ne connaissons pas, nous, le dessein souverain de Dieu. Nous ne connaissons pas. Ce que Dieu veut que nous sachions, en revanche, c'est qu'il n'y a rien de plus important à connaître et à diffuser que le message de la Bible. Et si c'est vrai, alors nous devons, premièrement, nous intéresser nous-mêmes avec enthousiasme et gratitude à ce message de la Bible. Et deuxièmement, nous devons faire connaître ce message, l'expliquer et le promouvoir autant que possible, sachant que Dieu va faire fructifier ce message là où il veut. Et il a la puissance de le faire selon son plan, selon son dessein souverain, qui nous a pas été entièrement révélé. Mais il fera ce qu'il veut. Et c'est d'ailleurs ce que confirme la fin du passage à partir de verset 18. La troisième et dernière chose qu'on peut tirer de ce texte, en effet, c'est que le message de la Bible ne produit pas toujours un effet positif, mais quand il le fait, c'est très positif. Maintenant, Jésus explique le sens de la parabole à ses disciples. Il dit, vous, écoutez le sens. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il leur dit que la semence représente la parole du royaume, c'est-à-dire la prédication de Jésus, hein, la prédication du Messie, la prédication, par extension, des apôtres qui sont les émissaires du Messie, la prédication donc chrétienne, c'est-à-dire le message de la Bible qui est centré sur la personne et l'œuvre de Jésus, le Messie. Et ce message, donc, d'après la parabole, va produire des effets variables. Il y a d'abord les gens qui entendent le message, mais qui restent complètement indifférents. Des gens qui ont été peut-être à l'église, qui ont entendu les explications du pasteur concernant le sens de la venue de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Des gens, par contre, chez qui ça ne fait ni chaud ni froid. Des gens, peut-être, qui ont lu la Bible même, parfois de grands spécialistes des enseignements de la Bible, des gens qui ont peut-être grandi dans une famille chrétienne, qui ont fréquenté beaucoup l'Église, ou peut-être, à l'inverse, des gens qui ont simplement reçu un tract dans la rue. Mais le point commun de toutes ces personnes, c'est que leur vie reste inchangée. Leur cœur reste incrédule, leurs yeux restent fermés et leurs oreilles bouchées. Pourquoi ? Parce que, dit Jésus, la semence n'a même pas eu le temps de toucher la terre, qu'elle a déjà été enlevée par le diable. Ça, c'est les premiers. Deuxièmement, il y a les gens qui reçoivent avec beaucoup d'enthousiasme le message de la Bible, mais qui tournent le dos à ce message quelque temps après. Ce sont des gens-là qui sont capables d'exprimer beaucoup d'intérêt pour le christianisme, beaucoup d'intérêt pour l'Église, beaucoup d'intérêt pour l'Évangile et pour les enseignements de la Bible, mais seulement dans la mesure où cela se conforme à leurs intérêts personnels. Seulement dans la mesure où ces choses représentent un vrai plus dans leur vie. Mais un jour ou l'autre, ce semblant de foi est mis à l'épreuve, dit Jésus, et ne résiste pas à l'épreuve, parce que ces gens pensaient pouvoir emmener Jésus avec eux sur le chemin de leur bonheur, plutôt que de se laisser emmener par Jésus avec lui sur le chemin de sa croix. Et puis troisièmement, il y a les gens qui sont tiraillés. Ils entendent le message de la Bible, ils savent que c'est intéressant. Ils viennent à l'église régulièrement, ils voient bien que dans la personne et l'œuvre de Jésus, il y a quelque chose d'incontournable. Mais en même temps, ils sont tellement pris par leurs préoccupations, par leur travail, par leurs loisirs, par leurs amis, qu'ils n'arrivent tout simplement pas à se résoudre à abandonner leur vie à Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il veut, lui qui est pourtant un maître souverain, bienveillant et infiniment sage. Et du coup, ces gens-là sont attachés jusqu'à un point à Jésus. Ils sont attachés jusqu'à un point à Jésus et à son Église, mais leur vie, voyez-vous, elle reste infructueuse. Elle ne porte pas de fruits. Ils cherchent à tirer le meilleur de plusieurs mondes. Vous voyez ? Mais en fin de compte, ils sont spirituellement pauvres. Leur vie ne porte pas de fruits à la gloire de Dieu. Mais il y a quatrièmement les vrais disciples de Jésus dans cette parabole. Les gens qui entendent et qui comprennent. C'est-à-dire chez qui Dieu a vraiment fait une œuvre puissante pour toucher leur cœur et leur donner une foi pleine et entière en Jésus. Et ces gens-là portent du fruit, dit Jésus. Un fruit qui n'est pas toujours le même. Il varie en quantité, vous avez vu. Mais malgré tout, c'est toujours un fruit abondant. Et ce que cette explication de la parabole nous montre, l'explication que Jésus lui-même en fait, c'est qu'en fin de compte, ça vaut quand même le coup de semer abondamment la parole du royaume. Ça vaut quand même le coup de la semer abondamment, cette parole du royaume, c'est-à-dire la prédication chrétienne, c'est-à-dire le message de la Bible. Ça vaut le coup de s'y intéresser beaucoup. Ça vaut le coup de le diffuser beaucoup, ce message. Parce qu'il suffit que le grain tombe une fois dans la bonne terre, il suffit d'une fois dans la bonne terre, pour qu'ils produisent des fruits au moins au trentuple, mais voire au soixantuple, voire au centuple. Mais au moins au trentuple, c'est déjà énorme. Alors je vous ai sûrement déjà raconté la conversion de ce jeune homme de 15 ans, en 1850, qui un jour a dû se réfugier dans une petite chapelle de campagne en raison d'une tempête de neige. Dans la chapelle, il y avait un culte avec très peu de monde, un peu comme aujourd'hui. Très peu de monde à cause de la neige, et comme le pasteur lui-même n'avait pas pu venir à cause de la neige, sans doute, ou peut-être qu'il était en train de passer une année aux États-Unis, enfin, je dis ça, je ferme la parenthèse, c'était donc un laïc qui prêchait en raison de l'absence du pasteur, et il prêchait tant bien que mal. Or, par les paroles maladroites de cet homme, un soir de tempête de neige, dans une chapelle incongrue au milieu de quelques personnes inconnues, par les paroles maladroites de cet homme, le Saint-Esprit a si puissamment touché le cœur de ce jeune homme qui s'était réfugié là, que celui-ci s'est converti à l'instant au Seigneur Jésus-Christ. Et voici comment il raconte cette expérience. Ce jour-là, lorsque je me suis abandonné à mon Sauveur, je lui ai donné mon corps, mon âme, mon esprit. Je lui ai donné tout ce que je possédais et tout ce que je posséderai jamais à partir de ce moment-là et jusque dans l'éternité. Je lui ai donné tous mes talents, toute ma force, toutes mes capacités, mes yeux, mes oreilles, les membres de mon corps, mes émotions, ma faculté de jugement, toute ma masculinité et tout ce qui en découlerait jamais, et toute aptitude nouvelle que je pourrais jamais acquérir. Ça, donc, c'est une description de la foi de celui qui entend la parole du royaume et qui la comprend. Le nom de ce jeune homme, c'était Charles Spurgeon, qui est devenu ensuite certainement un des plus grands prédicateurs de l'évangile de ces deux derniers siècles, ayant prêché en 40 ans environ 3600 messages différents et ayant publié 49 livres, dont de nombreux commentaires bibliques. Et on ne compte pas en plus le nombre de personnes qui, à l'écoute de la prédication de Spurgeon, ou Spurgeon, vous choisissez, se sont converties à leur tour au Seigneur Jésus. On ne les compte pas, ces gens-là, par dizaines, par centaines, peut-être par milliers, qui, à l'écoute de ces prédications, se sont convertis à Jésus. Vous voyez pourquoi je disais que dans un troisième temps, dans ce texte, ce passage voulait nous faire comprendre que le message de la Bible ne produit pas toujours un effet positif, mais quand il le fait, c'est très positif. Il suffit d'un grain dans la bonne terre. Il se multiplie au moins au 30e. Et vous voyez aussi pourquoi je disais que la leçon générale de ce texte était tout simplement la suivante. Il n'y a rien de plus important à connaître et à diffuser que le message de la Bible. Ce que ça implique pour nous, d'abord, qu'on ne doit pas mesurer la pertinence de la Bible à ce qu'en pense la société qui nous entoure, mais mesurer sa pertinence à ce qu'elle dit vraiment. Ce qu'elle dit vraiment, la Bible, ça mérite notre attention, une attention extrême, enthousiaste, quotidienne, scrupuleuse. Ce que dit la Bible, ça mérite qu'on vienne à l'église pour en savoir plus, ça mérite qu'on pose des questions au pasteur ou à ses amis chrétiens pour creuser un peu plus, pour découvrir un peu plus, ou si on a des objections, pour obtenir des réponses à nos objections ou à nos doutes. Ça mérite aussi d'être diffusé le plus largement possible, ce message, d'être diffusé hardiment, résolument, sans complexe, malgré les apparences, malgré l'environnement dans lequel on vit. Ça mérite aussi qu'on invite nos amis au culte et aux activités de l'église, comme aux soirées à vous de voir, si vous ne savez pas ce que c'est, vous me demanderez. Ça mérite qu'on offre une Bible à nos amis. Vous savez, ça ne coûte pas cher une Bible, hein. Il y en a moins de 2 euros maintenant, hein, des Bibles. Ça mérite donc qu'on leur offre cette Bible à nos amis et qu'on leur propose de l'étudier ensemble. Ce que dit la Bible, ça mérite enfin qu'on en parle publiquement. Pourquoi pas sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, hein, poster des articles chrétiens, des articles d'apologétique, des commentaires, des versets bibliques, des passages entiers de la Bible. Pourquoi pas les poster sur votre réseau social, sur Facebook ou ailleurs. Puissions-nous être animés par les paroles du psalmiste, je finis avec ça, psaume 19, je reviens à ce psaume dont on a lu quelques versets tout à l'heure, psaume, pas 19, mais 119, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais 119 en tout cas, versets 140 à 142. Ta promesse, et ça c'est un terme pour désigner la parole de Dieu, hein, ta promesse est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis chétif et méprisé, je n'oublie pas tes statuts. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Amen. Prions. Notre Dieu, nous confessons ce soir que bien souvent nous laissons cette indifférence s'immiscer un peu dans notre vie vis-à-vis de ta parole, Seigneur. Nous sommes un peu distants, un peu blasés. S'il te plaît, pardonne-nous. Et renouvelle en nous ce désir irrépressible de connaître mieux le message de la Bible et de le diffuser davantage autour de nous, sachant que les fruits t'appartiennent, Seigneur. C'est toi, souverainement, qui dirige le grain pour qu'il tombe tantôt ici, tantôt là, mais parfois dans la bonne terre, de sorte qu'il va produire au moins au 30e du bon fruit à ta gloire. Seigneur, aide-nous à être zélés et fidèles dans notre vocation. Au nom de Jésus. Amen.